de planification et le calendrier. Et je vais ensuite reprendre la parole pour vous faire une mise à jour de ce plan. Terrine au micro. Je vais passer rapidement sur l'organisation de la réunion. Je suis Yarine, donc. D'abord, on va parler du processus de planification et du calendrier pour la mise à jour du plan opérationnel et budget quinquennal et du plan opérationnel et budget pour 2017. Et on va passer en revue les détails du projet du plan opérationnel quinquennal de l'exercice fiscal 2017, de la transition et mise en œuvre USG, les risques et les opportunités pour l'exercice fiscal 2017, et on parlera des prochaines étapes de ce processus. Alors, processus de planification et budget. Voilà le cycle de planification quinquennale. Il s'agit d'un plan stratégique qui a été adopté par le conseil d'administration qui part d'un plan opérationnel quinquennal dont l'objectif est de couvrir les exercices fiscaux 2016 à 2020. Chaque année, il y aura une mise à jour du plan quinquennal pour refléter les progrès enregistrés vers les buts. Ces mises à jour permettent de donner des informations sur le plan opérationnel et budget. Donc, chaque année, et on est justement à ce moment-là précis, il y a une mise à jour du plan quinquennal et on développe le plan opérationnel et budget pour l'exercice 2017. Ce processus a pris environ 9 mois, de septembre à juin. Une fois que le plan opérationnel et budget de 2017 est adopté, ou tout plan opérationnel et budget de quelque année que ce soit, nous voyons quels sont les progrès effectués et les résultats. Donc, beaucoup d'entre vous ont participé à nos appels téléphoniques, à nos téléconférences, pour réviser tous les documents, et les documents d'ailleurs inscrits sur notre site web. C'est ainsi que nous présentons à la communauté nos observations et commentaires par rapport à l'atteinte de nos résultats. Donc, ce que l'on a fait cette année est conforme à notre plan stratégique et le cycle continue ainsi. Révision du plan stratégique, puis mise à jour du plan opérationnel quinquennal de nouveau. Donc, comment procédons-nous exactement? Qu'est-ce qui figure dans le document, dans le plan quinquennal et du plan annuel? D'abord, nous avons le système de gestion de l'ICANN. Il s'agit de la structure de travail de l'ICANN. Il comprend 5 objectifs qui constituent les piliers stratégiques. Nous avons 16 buts liés à ces 5 objectifs. Ce sont les résultats escomptés vis-à-vis de ces objectifs. Nous avons 63 portfolios qui sont liés à ces 16 buts. Et voilà le travail traverse tout notre travail. Et nous avons plus de 340 projets chaque année qui, il s'agit d'efforts qui impliquent un certain nombre de résultats qui doivent être fixés et d'objectifs fixés. Ce que l'on fait, c'est que l'on prend en considération les contributions de la communauté concernant le plan opérationnel, plan stratégique et plan opérationnel et budget. Donc, il y a beaucoup d'interactions entre le personnel et la communauté et le personnel de l'ICANN traduit cela en objectifs, en but, portfolio et projet. Au niveau des objectifs, les personnes chargées de diriger ces efforts sont le directeur financier et au niveau des portfolios, c'est le travail du personnel des opérations de l'ICANN. Voici le calendrier pour l'exercice fiscal 2017. Il y a beaucoup d'informations sur cette diapo, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu et beaucoup d'étapes dans ce processus, y compris beaucoup de consultations auprès de la communauté. Donc, entre juillet et septembre, voilà la planification du processus. On examine le processus précédent pour voir quelles sont les réussites, les succès. En septembre, vous voyez qu'il y a un point vert qui indique une consultation auprès de la communauté qu'on a eue. Donc en septembre, il y a eu une consultation auprès de la communauté où on a parlé du processus pour l'exercice fiscal 2016. Qu'est-ce qu'il fallait améliorer? Qu'est-ce qui avait marché? On a fixé ensemble les résultats à atteindre et on a fixé le calendrier pour l'année. Ensuite, on est passé à la phase de développement qui a commencé entre septembre jusqu'à février. Et pendant cette période, le personnel travaillait sur la mise à jour du plan opérationnel quinquennal pour l'exercice fiscal 2016. Et on a eu là aussi beaucoup de contributions de la part de la communauté. En octobre, par exemple, nous avons eu un groupe de travail sur le budget qui s'est réuni à Dublin, où on a parlé beaucoup des dépenses, des recettes. Donc, dans cette phase de développement, là encore, il y a eu beaucoup de participation de la part de la communauté et de contributions. En mars, c'est-à-dire maintenant, le 5 mars, nous avons publié le projet de la mise à jour du plan opérationnel quinquennal et du plan opérationnel et budget pour l'exercice 2017 que Xavier va présenter. En tout cas, il va présenter les points saillants de ce document juste après. Ensuite, consultation à Marrakech. Dimanche soir, nous avons eu un autre groupe de travail qui s'est réuni. On est rentré dans le détail des documents publiés et des réponses faites par rapport à la contribution de la communauté. Avec la publication de ces documents le 5 mars, cela a permis d'ouvrir la période de commentaires publics. Cette période va durer 56 jours. Je crois que c'est la période la plus longue pour un plan opérationnel et budget. Ah, j'aimerais revenir en arrière. Nous avons publié 2 semaines avant que, par rapport à l'année dernière, pour l'exercice fiscal 2016, ce qui nous permet une période de commentaires publics plus longue et donc à la communauté d'interagir davantage avec le personnel parce qu'elle dispose de plus de temps pour la période de commentaires publics. Donc 5 mars jusqu'au 30 avril. Et immédiatement après, pendant cette période de commentaires publics, le personnel et les membres du conseil d'administration auront des consultations avec ceux qui ont soumis des commentaires de telle sorte que nous puissions examiner en détail les commentaires et que nous puissions bien comprendre la teneur de ces commentaires et les points spécifiques à analyser et discuter pour pouvoir répondre à ces commentaires. Ensuite, le rapport sur les commentaires publics devait être publié le 13 mai, le 30 mai. Ensuite, on prend tous les commentaires de la communauté pour voir quelles sont les actions qui doivent être entreprises par rapport au document. S'il faut opérer des changements par rapport au plan opérationnel quinquennal ou par rapport au plan opérationnel et budget 2017, c'est à ce moment-là qu'on les opère, ces changements. Ensuite, c'est renvoyé au conseil d'administration et nous espérons que la date d'adoption sera le 30 juin. Nous l'espérons à Helsinki cette année, le jeudi 30 juin. Parlons un peu de la phase ou de l'étape développement. C'est la période la plus longue que vous avez vue sur la diapo précédente. Que faisons-nous lors de cette étape? D'abord, on regarde l'exercice fiscal 2016. On a encore 3 mois pour clore cet exercice fiscal 2016. Donc, nous voyons où nous en sommes pour 2016. C'est la première année de ce plan opérationnel quinquennal. Donc, on demande au personnel de passer en revue ce qui a été fait par rapport et de prévoir la finalisation de l'année. Ensuite, grâce à cela, on peut voir quels sont les impacts sur le plan opérationnel quinquennal. Donc, deuxième étape, mise à jour de ce plan opérationnel quinquennal en fonction des résultats atteints par rapport aux indicateurs clés de performance, par rapport aux tendances, par rapport au portfolio et par rapport à nos modèles financiers. Une fois que ce plan opérationnel quinquennal est actualisé, on passe au développement du plan opérationnel et budget pour 2017, qui se fonde sur le plan opérationnel quinquennal actualisé. Et lors de toutes ces étapes, le personnel prend en considération les consultations et les contributions de la communauté pour voir ce que l'on devrait faire pour ce qu'il reste de l'exercice fiscal 2016 pour actualiser le plan opérationnel quinquennal et ce que l'on devrait faire pour l'exercice fiscal suivant, c'est-à-dire 2017. Je vais repasser la parole à Xavier qui va nous parler de l'actualisation du plan opérationnel quinquennal. Xavier au micro. Merci. Nous avons la chance d'avoir les interprètes dans la salle, donc je vais parler en français.
If I can move the slides. Donc, comme Tarine l'a indiqué, la première étape de notre travail de planning de cette année, c'est de mettre à jour le plan opérationnel à 5 ans. Donc ce plan opérationnel à 5 ans, il contient bien entendu la structure du plan stratégique et il contient les objectifs, objectives and goals et les portfolios de projets. Donc nous avons regardé bien entendu, est-ce que le plan stratégique doit être mis à jour ? Le plan stratégique, ce sont les objectifs à 5 ans que nous devons atteindre. Nous ne suggérons pas de changer ce plan stratégique. Il a été développé avec la communauté durant un process tout à fait détaillé et consultatif. Et à ce stade, nos objectifs à 5 ans, il n'y a pas de raison particulière de devoir les changer. Nous avons bien entendu aussi regardé l'ensemble des portfolios. Tarine a indiqué tout à l'heure qu'il y avait à peu près 60 portfolios. Nous avons re-regardé si ces portfolios étaient correctement définis par objectifs et par goals et s'ils avaient besoin d'être mis à jour. Donc nous avons mis à jour la liste des portfolios au besoin, reprécisé souvent leur contenu et reconfirmé qu'ils étaient bien alloués au bon objectif. Nous avons aussi regardé les KPIs, les Key Performance Indicators, qui permettent de mesurer les progrès vers les objectifs auxquels ils se rapportent. Nous avons aussi, bien entendu, revu et reconfirmé les dépendances entre les différents portfolios et entre les différents projets, pour être sûr que les activités qui sont incluses dans chacun de ces portfolios sont correctement synchronisées entre elles. Et bien entendu, la mise à jour de ces portfolios et des projets a aussi conduit à revisiter le timing dans lequel chacun des objectifs et chacune des activités sur la durée de 5 ans sont planifiées. Donc, est-ce que l'activité de l'année 3, par exemple, de ce plan stratégique à 5 ans, va bien se passer en année 3 ou est-ce qu'elle va se passer plutôt en année 2 ou plutôt en année 4? Donc on regarde le timing de ces activités pour être sûr que le plan à 5 ans reflète correctement ces activités. Donc voilà le type de changement ou de revue qui est parfois de confirmation, bien entendu, de ce plan à 5 ans qui a été fait. Trois exemples de changements qui sont reflétés maintenant dans le plan à 5 ans qui est soumis à commentaire public. Nous avons introduit un des programmes de public responsibility qui s'appelle le Stakeholder Journey. Et donc maintenant, ce programme a été inclus dans le plan à 5 ans qui est encore une fois soumis à commentaire public. Who is, c'est aussi un programme très très important qui a été reprécisé dans le plan à 5 ans avec notamment trois projets qui sont inclus dans les portfolios et les goals qui sont indiqués ici et qui regroupent l'ensemble des activités relatives au sujet de who is. Bien entendu, l'une des mises à jour qui a été faite, c'est aussi de refléter l'activité relative à la Ariana Stewardship Transition, de manière à pouvoir refléter dans le travail de l'organisation et de la communauté les activités correspondant à ce projet qui est très important en ce moment et qui va bien sûr continuer depuis notre année fiscale 2015, en 2016, qui va continuer bien entendu en 2017 aussi. Nous avons une question. Chuck Gomes.
Thanks.
Merci Xavier. Est-ce qu'on pourrait revenir à la diapositive précédente, surtout celle qui parle du who is? Y a-t-il des points supplémentaires qui sont inclus pour le Who is Next Gen en ce qui concerne le groupe de travail, le PDP, donc RDS, donc en ce qui concerne l'exercice 2017 et deuxième question, 2017 et au-delà, et deuxième question dans le cadre du Who is également, OCTO, de quoi s'agit-il? Donc, portefeuille de recherche pour OCTO, ça correspond à quoi, ça?
Le Next Gen de mémoire est inclus dans le portfolio d'implémentation, celui qui est indiqué dans le goal numéro 2.3. Et le projet OCTO, je n'arrive jamais à me souvenir de la signification des lettres, mais heureusement, on a Élise qui est là et qui va m'aider.
Office of the Chief Technology Officer. Okay.
Donc, bureau du responsable de la technologie.
C'est David Conrad, notre CTO, qui s'occupe de mener les recherches sur la partie recherche sur le projet WIS en collaboration avec le groupe GDD dirigé par Akram Atala. Merci de cette question. Donc, on a revu maintenant le premier document qui est soumis à commentaire public et le plan à 5 ans. Maintenant, nous allons regarder, se focaliser sur l'année 2017, notre année fiscale 2017, et sur la partie du plan opérationnel 2017 et le budget correspondant. Taryn nous a donné tout à l'heure le lien sur le site internet de l'ICANN où se trouvent ces documents qui sont soumis à commentaire public, donc sur la page d'entrée du site de ICANN.org. Il y a le bouton Public Comment et là vous aurez la liste des Public Comments, des process de public comments qui sont ouverts. Et en bas, vous trouverez le draft FY17 Operating Plan and Budget. Dans cette section, vous trouverez un certain nombre de documents, dont le plan à 5 ans et un autre document qui correspond au budget et à Operating Plan pour l'année fiscale 2017. À l'intérieur de ce deuxième document, nous avons un certain nombre de sections et d'informations. nous allons revoir un certain nombre d'informations sur les opérations de l'ICANN, les core operations de l'ICANN. Nous avons aussi une section spécifique qui a été introduite cette année pour pouvoir présenter des informations sur la IANA Stewardship Transition. Nous avons aussi une section sur le programme des nouveaux GTLD. Et nous additionnons ensuite ensemble ces deux parties, opérations et nouveaux GTLD, pour constituer l'ensemble des activités et des états financiers de l'ICANN. Nous avons aussi, bien sûr, une partie sur ce que nous appelons les SONAC Additional Budget Requests, qui correspondent aux activités soumises à des requêtes de financement. On sait effectivement en 2012 pour l'introduction de nouveaux GTLD. Nous avons là du chiffre d'affaires, des dépenses et les fonds correspondants à ce programme qui sont entièrement séparés du reste des opérations de l'ICANN. Nous allons maintenant regarder les éléments principaux de notre budget de 2017. Nous allons voir un petit peu plus tard qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires de l'ICANN qui reflète essentiellement l'expansion du marché des noms de domaine. Nous allons voir aussi que les dépenses de l'ICANN s'accroissent aussi. Et nous allons voir dans quelle partie de notre budget ces augmentations se passent. Nous allons aussi regarder la liste des projets sur plusieurs années qui sont significatifs. Et nous allons aussi voir que le budget de l'ICANN proposé pour 2017 est un budget équilibré. Nous allons aussi regarder à un niveau assez agrégé le programme des nouveaux GTLD. Le chiffre d'affaires de l'ICANN. Ce slide ici vous permet de voir comment est collecté le chiffre d'affaires de l'ICANN et de quoi il est constitué. En ligne, la première ligne horizontale, c'est le chiffre d'affaires qui est généré par l'intermédiaire des registries. La deuxième ligne vers le bas correspond au chiffre d'affaires qui est généré par l'intermédiaire des registrars. Donc, parce que l'ICANN génère son chiffre d'affaires par l'intermédiaire de contrats avec les registries d'une part et avec les registrars d'autre part. Pour chacun de ces types de contrats, il y a deux types de chiffre d'affaires. À gauche, le chiffre d'affaires correspondant au volume d'enregistrement de domaine name, de nom de domaine, pardon. À droite, ce sont du chiffre d'affaires lié à des facturations fixes qui sont déterminées par le nombre de contrats que nous avons. Par exemple, il y a une facturation annuelle pour chacun des nouveaux TLD de $25,000 par an qui est fixe. Dès qu'un contrat existe et que le TLD est enregistré dans la racine, ICANN collecte une facturation fixe de $25,000 par an. Un exemple ici des transactions, c'est simplement lorsqu'un nom de domaine est enregistré, est nouvellement créé, soit par l'intermédiaire du registry ou de registrars, le registrant est facturé par ce registrar pour une année d'utilisation du nom de domaine, par exemple pour 8 ou 10 dollars ou 8 ou 10 euros. Et lorsque cette facturation annuelle se passe, le registrar ou le registry transfère une partie de ce montant de 25 centimes à l'ICANN. Donc, dès qu'il y a un nouveau nom de domaine, l'ICANN perçoit 25 centimes pour chaque année de renouvellement de ce nom de domaine. Et c'est le chiffre d'affaires que nous recevons ici dans la partie gauche, à la fois des registries et des registrars. En total, le chiffre de l'affaire de l'ICANN qui était proposé dans le draft pour 2017 est donc de 132 millions de dollars. Cela vient après 102 millions de dollars pour 2015, et c'est un chiffre d'affaires réel, fixe. En 2016, nous prévoyons un chiffre d'affaires d'à peu près 121 millions de dollars. L'année fiscale 2016 n'est pas encore terminée. Elle se termine à la fin du mois de juin, dans 3 mois et demi. Et donc, 132 millions de dollars pour 2017. Nous avons aussi, dans la partie planification, nous déterminons aussi des scénarios pour essayer de mesurer la sensibilité du chiffre d'affaires à différentes variables. Et nous avons déterminé un scénario bas de 126 millions de dollars et un scénario haut de 137 millions de dollars. Nous pensons simplement que le chiffre d'affaires devrait être autour de 132 millions de dollars. C'est quelque chose que nous avons revu en détail avec le Budget Working Group qui s'est rencontré dimanche soir dernier. Où se trouvent nos dépenses à l'intérieur de cette maison ou de ce... Je ne sais pas si c'est le Parthénon ou le Capitole, c'est comme vous voulez. Les dépenses de l'ICANN sont distribuées ici avec en haut l'ensemble des dépenses relatives à l'engagement avec la communauté et le public. Toute cette partie qui inclut l'activité des départements GSC, Government Engagement, Constituents, etc., représente à peu près 23 millions, les 22 millions 6 qui se trouvent là. La fonction GDD qui inclut l'IANA, entre autres, se trouve ici dans le pilier de gauche à 20 millions 4. Le département policy, 6 millions 2. Toutes nos activités techniques, notamment le OCTO, le Office of the CTO, se trouvent à l'intérieur du pilier technical pour 6 millions. Notre activité de public responsibility, qui est l'un de nos cinq objectifs stratégiques, se trouve là à 3,6 millions. Le département de contractual compliance qui s'occupe de vérifier l'adéquation de nos registries and registrars à leur contrat ainsi que la propre validation de nos obligations contractuelles se trouve ici en compliance and safeguards pour 5,4 millions. Ensuite, il y a un certain nombre de services partagés qui supportent l'ensemble de ces opérations. Ils incluent tout ce qui est ressources humaines, finances, Facilities here représente le loyer de l'ensemble de nos bureaux à travers le monde. Tout ce qui est information technology, légal, donc le juridique, le département de strategic initiatives, toute la communication ainsi que les traductions, nos traducteurs qui sont là-bas. Merci les traducteurs. Et cela représente 62 millions de dollars. Ombudsman and CEO, 2,4 millions. Et le support au board et au NOMCOM, qui représente 3,3 millions. Voilà l'ensemble, une distribution de l'ensemble des dépenses de l'ICAD selon ses fonctions. Comment ces dépenses ont évolué depuis l'année dernière, entre guillemets, qui est notre année fiscale 2016. La variation entre 2016, ici, à 108 millions, et 2017, ici, à 121 millions, se distribue d'une manière où il y a deux catégories particulières d'accroissement. Ici à gauche, l'ensemble de ces changements et de ces augmentations sont relatives à des projets qui ont été déroulés sur les deux dernières années et qui ont été mis en place. Et à la suite de leur mise en place, les coûts annuels de l'ICAN ont été augmentés. Je prends un exemple. Lorsque l'on développe un logiciel, il y a beaucoup de coûts au départ, c'est le projet, et une fois que ce logiciel est mis en place, il y a des coûts annuels de maintenance ainsi que de support, des licences, etc. Donc lorsque le projet est terminé, les dépenses de l'ICAN peuvent être augmentées. Bien entendu, il est aussi possible que lorsqu'on met en place un logiciel, on en retire un. Et parce qu'on peut aussi effectivement remplacer un logiciel par un nouveau, et donc il y a aussi des coûts qui diminuent. En ce qui concerne les logiciels, et une partie de ces augmentations qui est ici pour 3 millions à peu près, correspond à des nouveaux logiciels informatiques. Salesforce.com est l'un des logiciels que nous mettons en place, et nous sommes aussi en train de travailler sur le développement d'un logiciel ERP. Qui n'existe pas aujourd'hui dans l'organisation et qui va nous permettre de travailler de manière beaucoup plus efficace à l'intérieur de l'ICAN. Le reste des augmentations que nous pouvons voir ici sont liées principalement à l'augmentation du nombre d'employés, et nous allons le voir un petit peu plus tard dans un slide. Ici, c'est simplement la partie correspondant à l'impact des nouveaux employés qui sont arrivés au cours de l'année 2016, qui impactent nos dépenses en 2016 pour quelques mois, mais qui vont impacter nos dépenses en 2017 pour l'ensemble de l'année. Donc ça crée une différence mécanique. Il y a aussi l'impact des 19 nouveaux employés planifiés pour l'année 2017, des augmentations de coûts le département et les activités de l'IANA, et cela constitue l'ensemble. Nous avons une question. Jonathan Robinson, s'il vous plaît.
Thank you.
Merci, Xavier. Jonathan au micro. Alors, j'ai deux points sur lesquels j'aimerais revenir qui sont liés à cette diapo. D'abord, est-ce que vous pourriez préciser la différence entre la ligne de base, ligne de référence 2016 et l'autre ligne? Quelle est la différence entre ces deux lignes? Ensuite, par rapport aux augmentations de coûts liées aux fonctions IANA, est-ce que c'est un coût récurrent?
La différence, Jonathan nous a posé la question sur la différence entre FY16 baseline et FY16 new baseline. Nous introduisons cette notion de FY16 new baseline simplement pour pouvoir analyser les variances d'année en année par l'intermédiaire de leur de la manière dont elles sont arrivées à l'intérieur de notre budget. Ces variances qui se trouvent ici entre new baseline et baseline, donc ces trois catégories de variances, résultent d'activités qui ont été des projets, des multi-year projects à l'intérieur de l'ICANN. Une fois qu'ils ont été terminés, ces projets, ils génèrent des coûts annuel, entre guillemets, permanent. Et je prenais l'exemple d'un logiciel, simplement parce que le développement d'un logiciel est un projet. Une fois que le logiciel est mis en place, ensuite on a des coûts permanents d'activité, maintenance, des coûts de support, etc. Donc ces activités sont des activités qui étaient des projets ou des pilotes, et une fois que ces projets ont été terminés, ils génèrent des coûts permanent, entre guillemets, annuel d'entreprise. Ce n'est simplement qu'une manière d'analyser la croissance de nos dépenses entre ce que j'appelle cela, en fait, la croissance organique. Ça, ce sont des activités de l'ICANN qui existent tout le temps, mais simplement, par exemple, pour le personnel qui est à l'intérieur de l'entreprise, des augmentations de salaire annuelles, c'est une croissance des dépenses, je dirais, de manière simplement organique. Cette croissance-là, des dépenses, est due à la mise en place ou la fin de projets qui représentent des activités en général nouvelles. Et c'est pour ça que je mentionnais, par exemple, Salesforce.com, c'est la mise en place d'un système qui se trouve ici, une fois que la mise en place est faite, génère des coûts de manière annuelle, de licence, etc., que nous n'avions pas auparavant, simplement parce que nous n'avions pas Salesforce.com. La deuxième question, le million qui est ici, qui est arrondi, d'accroissement des coûts de l'IANA, ce n'est pas one-off, ce sont des coûts dont on estime qu'ils continueront, parce que c'est essentiellement, en grande partie du personnel supplémentaire pour l'IANA. Et s'il y a des questions supplémentaires, Élise est juste à notre table et peut nous apporter plus d'informations sur ces coûts, si besoin est. On est bon ? Merci. Quelles sont la liste de nos multi-year projects ? Donc, j'ai mentionné un petit peu plus tôt l'ERP, ici, qui est un projet qui va démarrer dans les jours qui viennent et qui va continuer en 2017. Nous pensons que nous allons avoir un nombre de reviews en 2017 qui est entre guillemets extraordinaire, dans le sens où nous devrions avoir beaucoup plus de revues de nos activités que nous n'en avons d'habitude. Nous avons aussi un certain nombre de projets de public responsibility qui sont des pilotes, et nous avons vu que d'ailleurs certains des pilotes du passé retrouvent des activités que nous faisons de manière permanente. Nous allons finir l'implémentation de Salesforce.com, et il y a aussi un projet décrit dans les documents soumis à commentaires publics relatif à un support du développement de l'IPv6. Donc voilà la liste des projets sur plusieurs années qui sont inclus dans le draft du budget. Oui, on a un problème tout à fait spécifique avec ce slide. Il devrait y avoir des chiffres ici. Et quand je regarde le fichier sur mon ordinateur, il y a des chiffres. Mais sur l'écran, il n'y a pas de chiffres. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons essayé à plusieurs reprises de régler ce problème technique, mais il persiste. Donc je vais décrire les chiffres qui sont. Donc, juste pour que vous sachiez, ici, il y a 5.4 million, n'est-ce pas, Darren? 5.6 million. Ainsi que le détail par chacune de ces lignes. Donc, quel est ce slide? Ici, nous décrivons de manière très résumée les coûts de fonctionnement de l'IANA. Ces coûts de fonctionnement incluent des coûts directs venant de ressources dédiées. Donc, pour simplifier, ces coûts-là sont les coûts du département que Elise Garrick, qui était avec nous, dirige. Ensuite, sur cette deuxième ligne, nous avions aussi des coûts directs, mais qui sont relatifs à des activités qui sont fournies par d'autres départements de l'organisation. Par exemple, le département IT supporte les activités de l'IANA ou le département juridique aussi, mais d'une manière partielle. Donc ces départements contribuent aux activités de fonctionnement de l'IANA et les coûts de ces départements-là apparaissent sur cette deuxième ligne ici. La troisième ligne ici correspond aux coûts de support des activités telles que, par exemple, finances ou ressources humaines ou communication, etc. Donc, nous avons trois types de coûts à l'intérieur de l'IANA qui apparaissent ici. Les colonnes que nous avons ici, incluant le nom invisible ici, c'est le Names, Numbers, Protocol Parameters, qui sont les trois organisations opérationnelles pour qui les fonctions de l'IANA sont délivrées. Nous avons, pour la première fois dans le document qui est soumis à commentaire public, fourni un grand niveau de détail des coûts de l'IANA. Donc ça, c'est un niveau résumé, mais nous avons déterminé qu'il y avait à peu près 13 activités qui sont décrites ici de l'IANA, et nous avons détaillé les coûts de l'IANA pour chacune des organisations, selon ces 13 activités. Donc il y a une annexe dans le document qui est disponible sur notre site. Il y a une annexe qui contient les coûts détaillés de cette manière pour chacun des clients et pour chacune des 13 activités qui sont ici. C'est la première fois, encore une fois, que nous fournissons cette information et vos commentaires sur le niveau de détail et sur le contenu de chacune de ces lignes de coûts sera très intéressant à avoir. Et nous avons aussi une définition détaillée de l'ensemble des activités qui sont supportées par les coûts. Donc ça, c'est une version très résumée de l'ensemble de l'information qui se trouve dans le document disponible à commentaire public. J'ai envie de dire, parce que Jonathan est là, que c'est aussi un niveau d'information qui excède la requête du CWG sur la présentation des coûts de l'IANA. Alors, comment l'ensemble de ces informations, chiffres d'affaires que nous avons vus au début, dépenses que nous venons de voir et IANA, se résume à l'intérieur de notre budget? On a vu tout à l'heure le chiffre d'affaires de 132 millions, les dépenses de 126 millions dans la baseline, qui se distribue selon les catégories de coûts personnels, travel, professional services, administration, etc., incluant une contingency qui est simplement un montant non alloué de dépenses budgétées. C'est simplement que ces dépenses-là seront des dépenses c'est un montant de dépenses budgétées, mais qui n'est pas alloué à un département en particulier ou à une activité en particulier. C'est simplement pour faire face aux dépenses qui pourraient simplement se présenter et qui n'ont pas été planifiées à l'intérieur de notre budget. S'il n'y avait pas ce type d'activité qui se passe, eh bien ces 5 millions ne seront pas dépensés. 5 millions ici. Donc total de dépenses 126 millions en baseline. Et nous avons l'impact de nos 5 ou 6 projets multi-year qui est là. Et quand on fait la somme de tout ça, on fait apparaître un surplus en baseline et qui permet de financer le coût des projets multi-year. Et donc, l'absence de chiffres ici indique simplement que notre budget est équilibré. Le chiffre d'affaires permet de financer l'ensemble de nos dépenses. Nous comparons cette information pour 2017 à une information similaire pour 2016. Ici, vous voyez aussi l'effectif moyen de l'organisation pour permettre de comprendre un petit peu mieux comment les coûts de personnel évoluent. On va voir un petit peu plus d'informations sur le personnel. Le deuxième composant maintenant de notre budget et de nos opérations, le programme nouveau TLD. C'est très difficile pour moi à dire en français parce que je ne l'ai jamais étudié ce sujet en français. D'ailleurs, je vais le faire en anglais maintenant. Ça va être plus simple pour moi et pour tout le monde, enfin pour beaucoup de gens. So, the new GTLD.
Alors, le nouveau programme GTLD, ici, ce que vous voyez, c'est quelque chose à très haut niveau, que nous avons collecté 362 millions de dollars de frais pour 2012, au début de ce programme, et on prévoit pour toute la durée de ce programme, ça c'est une vision pour l'ensemble des programmes, non pas simplement pour 2016, 362 millions, ce qui inclut les demandes de refinancement qui ont été retirées par les candidats parce que la fraction des frais est remboursable. Et le reste des coûts pour évaluer tout simplement le nombre de candidatures. Dans ces cases, vous voyez l'évaluation pour la période. Donc entre 2012 et 2015, nous avons distribué environ 203 millions. Excusez-moi, là, on voit pas bien, mais là, c'est l'exercice fiscal 2016. On prévoit une dépense de 28 millions en 2016, même montant en 2017, mais fractionné de différentes manières, et 15 millions pour 2018 et au-delà. Vous pouvez voir que la plupart des coûts ont été assumés pendant cette période, ce qui correspondait, bien entendu, comme vous le savez tous, à l'évaluation initiale et étendue de la candidature. Ça a été le gros du travail d'évaluation des candidatures. Il y a, bien entendu, une différence entre le montant d'argent collecté et les dépenses d'évaluation que nous prévoyons, et ce montant d'argent va nous permettre de faire face à toute dépense inattendue qu'on pourrait avoir dans le programme, qui inclut entre autres les risques, et les risques incluent entre autres les arbitrages aux différents litiges juridiques qui pourraient se présenter. Donc ça, ces coûts potentiels ne sont pas inclus dans ces chiffres, dans aucun de ces chiffres qui figurent à l'écran. Question de la part de Jonathan. Jonathan au micro, merci. Bon, clairement, vous avez divisé tous ces chiffres et vous avez réservé 90 millions pour ce fonds. Mais vous avez deux autres ensembles de fonds qu'on connaît bien, le fonds de réserve et les revenus des enchères pour les nouveaux GTLD. Alors, comment est-ce que vous avez rassemblé cela dans un même endroit ou est-ce que vous l'avez fractionné dans différents endroits? Xavier au micro. Oui, effectivement, je vais répondre à votre question, peut-être pas entièrement, mais partiellement. Alors, en fait, on a quatre fonds différents qui physiquement sont séparés les uns des autres. L'un, c'est le fonds opérationnel. C'est notre trésorerie journalière. Notre compte bancaire est à la banque HSBC. On a des comptes pour nos différentes opérations dans le monde. Il devrait contenir environ couvrir 3 mois de coûts opérationnels. Ensuite, on a le fonds de réserve. Il s'agit des réserves à long terme de l'ICANN pour assurer la sécurité et la stabilité financière de l'ICANN. Et c'est de ce fonds que nous avons pris les ressources nécessaires pour financer les dépenses liées à la transition des fonctions IANA qui sont conséquentes. Ce fonds, pour répondre à votre réponse spécifique sur la manière dont il est géré, ce fonds donc consiste ou est composé de fonds qui sont gérés par un SSGA. Donc il est séparé. On ne touche pas à ces réserves sans l'approbation du conseil d'administration. Ensuite, comme je l'ai dit auparavant, et j'utilise d'ailleurs cette diapo pour vous le montrer, le programme des nouveaux GTLD, c'est un programme très spécifique avec des dépenses distinctes et un fonds distinct. Donc, à la banque HSBC, on a un compte séparé pour les opérations journalières ou quotidiennes de l'ICANN. C'est un fonds séparé. Et nous gardons sur ce compte des fonds suffisants pour couvrir 3 mois de dépenses. Donc, ça situe entre 5 et 10 millions de dollars. Le reste de ce fonds, 113 millions environ, est investi dans deux fonds d'investissement. Et on a consolidé ces trois fonds d'investissement en deux. Et deux proviennent du produit des enchères et un troisième fonds d'investissement pour investir dans le produit de la vente des enchères. Donc il y a 4 types de fonds. Chacun est géré sur 4 comptes différents, disons. Jonathan, au micro. Oui, très clair. Merci. Autre question. Est-ce que pour chacun de ces investissements et gestion, alors, Jonathan, Xavier au micro, demandez quelle était la règle et les orientations que les gestionnaires de ces placements utilisent pour gérer ces finances. Donc, nous avons 2 types de politiques d'investissement qui ont été conçus afin d'investir ces fonds. Le fonds de réserve fonctionne avec une politique relativement conservatrice. D'ailleurs, ces deux politiques sont très conservatrices, mais la grande différence entre ces fonds, c'est que le fonds de réserve a une vision à long terme d'investissement. Le fonds pour les nouveaux GTLD, parce qu'on ne savait pas à l'époque où il a été lancé combien de temps il allait durer, la politique pour ce fonds a une vision d'investissement à plus court terme. Donc, ici, peut-être que l'on a des placements qui ont une vision à long terme, alors que là, nous avons une durée moyenne, si vous voulez être technique, une limite de temps de 1 an, en moyenne. Donc, on demande à ces gestionnaires d'utiliser pleinement cette année de durée moyenne, parce que ça nous aide à étendre un petit peu la vision et les retours, parce que ces fonds, jusqu'à présent, peuvent durer 1, 2, 3 ans. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Merci.
Bien, je reviens à la diapo sur laquelle nous nous étions arrêtés. Donc, on a vu les opérations, on a vu le programme des nouveaux GTLD. Lorsqu'on les rassemble, vous avez les opérations ici à gauche, le programme des nouveaux GTLD ici au milieu et l'ensemble des activités à ICANN. Revenus 160 millions, dépenses totales 150 environ et surplus attendu 11 millions. Et coût du personnel aussi 377 millions. S'agissant des ressources humaines, voici un graphe qui vous donne une vision à 3 ans de nos ressources humaines attendues ou prévues, qui commence en juillet 2014. Ça, c'est le début de notre exercice fiscal 2015. Ressources humaines jusqu'à la fin décembre, ce sont les ressources actuelles, c'est le nombre de personnels que l'on a à la fin décembre au sein de notre organisation. Ensuite, on prévoit le nombre de ressources humaines jusqu'à juin 2015, puis nous prévoyons les effectifs d'ici le 1er juillet, donc dans quelques mois, jusqu'à juin 2017. Comme vous pouvez le voir, nos effectifs au cours de l'année et demie passée est passé de 276 à 324 et nous prévoyons de finir l'exercice fiscal avec 361 effectifs, qui est légèrement en dessous des prévisions pour 2016. Donc, il y a une augmentation moins rapide que celle que nous avions prévue à l'origine. Et les effectifs pour 2017 devraient avoisiner les 375. Ça, c'est pour ce qui concerne les opérations ICANN. Ce que vous voyez ici en gris correspond au programme des nouveaux GTLD. Vous pouvez le voir. Dans cette période où il y avait encore beaucoup d'activités d'évaluation du programme, il y avait beaucoup d'effectifs et plus on avance, moins il y en a. Donc, moins il y a de ressources allouées pour soutenir le programme, moins il y a d'effectifs. Alors, quelques mots sur la transition. De l'USG et les activités de mise en œuvre, vous savez, et c'est une grande satisfaction pour toute la communauté, que toutes les organisations ont approuvé ou entériné les propositions pour la transition USG. Ça signifie que tous les efforts et le travail accompli a porté ses fruits et on va suivre les procédures, c'est-à-dire que la NTIA va être saisie de ce document. Si le Congrès américain et la NTIA acceptent ce document, on va le mettre en œuvre. Donc, il reste encore du travail à faire par rapport à la transition, par rapport à la rédaction des statuts constitutifs par le CCWG, et il y aura encore une partie du travail concernant la responsabilité sur la piste de travail 2 qui commencera une fois que la fin de la transition, avant que le travail sur la piste de travail 1 s'achèvera. Nous n'avons pas encore évalué les dépenses du projet de transition USG pour l'exercice fiscal 2017. Donc les chiffres que vous avez vus auparavant n'incluent aucun coût concernant ce projet. Pas encore. Nous travaillons avec
les dirigeants des groupes qui ont travaillé sur ce projet, CCWG, ICG et CWG, pour développer ensemble des estimations de coûts pour ces activités qui vont résulter des activités que l'on va mettre en œuvre en 2017. Donc, on n'a pas encore d'idées bien précises sur ces activités et donc sur les coûts encourus. On va travailler dans les 4 à 6 prochaines semaines avec les présidents de ces groupes pour élaborer un plan de travail et une évaluation des coûts correspondants à ces activités. Dès que ces informations seront disponibles, elles seront soumises pour examen à la communauté, nous l'espérons, avant la fin de l'exercice fiscal 2016, afin que la communauté puisse approuver ses prévisions. Dans le cadre de notre processus pour le plan budgétaire, nous voyons quels sont les risques et opportunités de ce budget. Les risques, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif qui pourrait créer soit plus de dépenses, soit créer moins de revenus pour l'ICANN? Donc ça, c'est un point de vue financier. Quels sont les risques pour l'organisation d'un point de vue financier? Et je vais vous donner un exemple. Ici, il est question des risques qui ont un coût plus élevé en termes de mise en œuvre pour ce qui concerne le projet de transition IANA. Il s'agit simplement d'un projet unique dans lequel nous n'avons pas beaucoup d'expérience, parce qu'en tant qu'organisation, on n'a pas mené ce genre de projet auparavant. Donc, l'incertitude est liée à la nature, au volume de dépenses que ce projet implique. Donc, c'est un risque. Si on ne planifie pas bien les choses ou si on ne sait pas quelles sont les activités qui seront nécessaires pour mettre en œuvre ce projet en 2017, il se pourrait qu'on ait plus de dépenses qu'escomptées. Autre risque, que nous ayons un nombre d'enregistrements plus faible et donc moins de revenus pour l'ICANN, comme vous l'avez vu au début de la présentation, environ 70% de notre chiffre d'affaires provient de ces enregistrements. Donc, s'il y a moins d'enregistrements, alors l'ICANN aurait un chiffre d'affaires plus réduit. Également, le scénario plus à la baisse que vous avez vu au début, il y avait 132 millions. Notre estimation la plus basse était à 126 millions. Le nombre d'enregistrements dans ce scénario correspond à une baisse par rapport à l'autre scénario. Et ça, c'est le risque qu'on prévoit dans ce scénario. Mais il y a également des opportunités. Si la délégation des TLD existants dans la racine a lieu plus rapidement dans le nombre d'enregistrements des TLD que nous avions prévu, alors il pourrait y avoir un effet contraire par rapport aux revenus. Et ça, c'est le scénario du meilleur des cas qu'on a vu par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Nous allons conclure la révision de ce budget. Là encore, il s'agit d'une présentation de haut niveau, d'informations beaucoup plus détaillées qui sont contenues dans le rapport publié sur notre site web, soumis à commentaires publics. Il s'agit d'un document de 75 pages. Le plan quinquennal est un autre document détaillé de 50 pages également. Et je voulais revenir sur une chose. Je vais d'ailleurs m'appuyer sur cette diapo qu'a commenté Tarine. Vous voyez ici, nous avons plus de 340 projets. Dans le rapport sur le budget qui est soumis pour commentaire public, vous avez la fragmentation, la division de nos dépenses pour chacun de ces 340 projets. Et pour chacun des projets, il y a une fragmentation des coûts entre ce qui concerne les effectifs, déplacements et réunions, services professionnels, administratifs et autres. Donc, chacun de ces 340 projets est détaillé dans chacune de ces catégories. Vous avez un chiffre total et au niveau des portfolios, vous avez aussi le nombre d'effectifs à plein temps qui sont indiqués pour chacun de ces portfolios. Je reviens donc à ma diapo sur les prochaines étapes. Je vais revenir en français.
Donc nous sommes maintenant le 10 mars, et l'une des activités qui est devant nous, et que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est de produire un estimé de coût pour le USG Transition Project. Donc c'est quelque chose que nous allons faire avec, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec les leaders de chacun des groupes, et qui est quelque chose que nous allons essayer de faire entre aux alentours de la fin mars, début avril. Ensuite, une fois que la période de commentaires publics qui a démarré le 5 mars et qui va se terminer le 30 avril sera terminée, à ce moment-là, nous allons commencer à répondre, bien entendu, aux questions ou aux commentaires qui ont été fournis au cours de la période de commentaires publics. Ce process de réponse va prendre à peu près un mois et nous aurons un certain nombre de rendez-vous téléphoniques au cours desquels nous allons discuter les commentaires qui ont été fournis par chacune des organisations qui les auront fournis pour pouvoir mieux y répondre plus en détail et de manière plus adéquate. Une fois que nous aurons répondu à ces commentaires ou à ces questions, nous allons matérialiser pour chacune des questions la réponse et nous allons fournir cela au conseil d'administration de manière à ce qu'il puisse avoir une bonne compréhension des commentaires qui auront été fournis et des réponses fournies à chacun de ces commentaires avant de considérer le budget pour approbation. Et cela fera l'objet d'un budget final qui sera ensuite soumis à approbation par le conseil d'administration le 30 juin 2016. C'est vraiment le dernier jour où on peut avoir l'approbation parce que le lendemain matin, 1er juillet, on a besoin du budget. Et le 30 juin, c'est le jeudi qui correspond au conseil d'administration qui se tient le jeudi à la fin du meeting B qui se passera en juin 2016. Vous avez ici le timing de l'année dernière et ici le timing de cette année. Questions sur ces prochaines étapes ?
Merci Xavier. J'ai une question sur le surplus et le déficit. Pas spécifiquement sur les étapes suivantes, mais est-ce que vous pouvez répondre quand même? Oui. Donc nous avons vu que pour des raisons très spécifiques, il y avait un déficit, l'utilisation des fonds de réserve approuvés par le conseil d'administration au cours de l'année passée. Nous avons vu également que dans vos prévisions, vous avez parlé d'une plage. De toute évidence, il y a une sensibilité qui est appliquée. Ça dépend de certains facteurs, donc cette application du budget. Comment est-ce que vous allez vous occuper d'un déficit, d'un surplus au cours de l'année financière? Est-ce que vous pouvez expliquer le processus dans la mesure où vous avez un déficit, qu'est-ce que vous allez faire? Et à un moment, on a entendu parler du fait que l'ICANN devait faire des réductions de coûts lors de l'année par rapport au déficit prévu. Donc, qu'allez-vous faire en cas de déficit, en cas de surplus? D'où est-ce que cela viendra? Où est-ce que cela ira au cours de l'année à venir, l'exercice à venir? Merci, Jonathan. Je vais repasser à l'anglais. Donc, en cas de déficit, d'abord, un déficit viendrait d'avoir des dépenses supérieures par rapport aux revenus. Donc, c'est soit le fait que les dépenses sont supérieures à ce qui a été prévu, et les revenus sont restés stables, ou alors les revenus sont plus bas que prévu et les dépenses sont les mêmes. Donc, tout d'abord, premièrement, bien sûr, nous faisons tout notre possible pour éviter un déficit. Nous surveillons nos déclarations tous les mois et nous considérons nos revenus tous les mois de manière à nous assurer de bien comprendre comment si ceci correspond bien à notre plan. Alors, si les revenus sont inférieurs, par exemple, aux dépenses, on va essayer d'ajuster les dépenses de manière à ne pas avoir un déficit en fin d'année. Nous l'avons fait lors de l'exercice 2015, lorsque les revenus étaient inférieurs de 10 millions au plan. Donc, nous avons augmenté nos dépenses de 12 millions, ce qui veut dire que, en fait, on a eu un petit excédent. Mais dans le cas où il y aurait un déficit en fin d'année. Ce déficit, ce serait quelque chose que le comité financier et le conseil d'administration prendraient en considération et ils détermineraient soit que ce déficit devrait être financé par le fonds opérationnel. Donc, on a des revenus qui arrivent dans le fonds opérationnel et en fait, le résultat net veut dire que le fonds serait diminué. Donc, le conseil va décider soit de réapprovisionner le fonds opérationnel en prenant de l'argent du fonds de réserve ou pas du tout. Donc, si nous prenons en considération que le fonds opérationnel en est à un niveau qui est suffisant. Je l'ai dit tout à l'heure que le fonds opérationnel devait être à un niveau d'environ trois mois de dépenses opérationnelles. Donc ça, c'est en cas de déficit. Si on fait l'hypothèse que ce fonds permet de financer le déficit, mais c'est donc le conseil qui en prend la décision. En cas d'excédent, donc ça, c'est l'autre question que vous avez posée. S'il y a un excédent, en principe, augmentation du fonds opérationnel, puisqu'il y a davantage de revenus et moins de dépenses. Donc, même processus. Le comité de finances du Conseil recommandera au Conseil d'attribuer un petit peu de cette augmentation du fonds opérationnel au fonds de réserve pour donc, en fait, faire des économies à long terme. Ça aussi donne lieu à une décision vient d'une décision du Conseil en cas donc d'excédent. Alors, nous sommes dans cette situation actuellement. Le fonds opérationnel n'a pas suffisamment d'argent pour trois mois. Donc, s'il y a excédent, il est tout à fait possible que le Conseil décide d'attendre que l'excédent remonte jusqu'à ce qu'on arrive à trois mois. Les trois mois nécessaires. Ou alors, on peut simplement décider de mettre cet argent dans le fonds de réserve. C'est bon? Il y avait une question ici. Attendez, je vous amène le micro. Alors, on va vous demander de donner votre nom, s'il vous plaît, pour l'enregistrement.
Maître Abdelkefi Hager, je suis membre du Conseil des avocats de Tunis. J'ai trois questions à poser, permettez-moi. Donc, la première, est-ce que vous ne pensez pas que les dépenses sont un peu élevées? Donc, ce qui est de nature à refléter la capacité de ICANN de gérer ses projets, c'est la première question. Donc, la deuxième question, c'est pour les réserves. jusqu'à où ces réserves peuvent seront des réserves. Est-ce que ces réserves-là ne peuvent pas être utilisées pour la gestion, pour les projets? Donc la troisième question, c'est concernant les documents. Est-ce que les documents des dépenses sont à la portée de la communauté, de la société d'Internet ou non? Et la dernière question, permettez-moi, c'est pour les l'alimentation du budget. Bon, ce sont des prévisions, on le connaît. Toujours pour les budgets, on a les plans A, B et les prévisions, etc. Donc, quel est votre avis pour cette question-là?
I will respond in French.
Je vais répondre en français, puisque la question était posée en français.
Merci pour ces questions. Vous allez m'aider si je n'arrive pas à retrouver les quatre, ok? Première question, est-ce que les documents sont disponibles? Je prends celle-là parce qu'elle est facile. Donc, sur notre site internet, vous pouvez aller dans le public comment, la section public comment, et vous trouverez un lien au. Do I have any more? Yes, thank you. Je vais le remettre le lien que nous avons montré ici. Il y a un lien à la section où se trouve l'ensemble des documents que nous avons dit. It's in the appendix. Merci. Ok. Donc là se trouvent les liens où se trouvent l'ensemble des documents qui sont mis à la disposition de la communauté pour public comment, qui sont très détaillés. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur. Si vous allez sur la page ican.org, public comment, open public comment, et le dernier en bas, c'est draft FY17 operating plan and budget. Donc c'est là que vous allez trouver tous les documents. Première question que vous avez posée, les dépenses sont élevées. Et donc c'est clair que les dépenses de l'ICANN se sont accrues au cours des dernières années pour refléter en fait l'activité de l'organisation, mais bien entendu de la communauté ensemble, hein, pour pouvoir essentiellement faire face à la croissance d'activité liée au programme de nouveaux GTLD. Nous sommes passés de 18 TLD opérationnels à presque 1000 TLD opérationnels. Vous imaginez peut-être la croissance que cela représente en termes d'activité, de complexité de l'activité, et en même temps, le marché des noms de domaine a beaucoup augmenté résultant de ça. Il y a aussi une complexité du marché qui s'est accrue avec tout ce qui est privacy, protection des utilisateurs, etc. Il y a de plus en plus d'activités sur ce type de choses. L'un des autres, un facteur de croissance très important, c'est aussi la globalisation de l'ICANN. Parce que nous avons, et c'était absolument critique pour l'organisation. Nous avons essayé de pouvoir représenter l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble du monde. Et donc, nous avons aussi créé une présence sur les 5 continents. Par l'intermédiaire de 3 hubs. Los Angeles pour la partie Amérique, Nord et Sud. Istanbul pour la partie Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et Singapour pour la partie Asie et Pacifique. Et nous avons aussi un certain nombre de bureaux d'engagement à Washington DC, à Bruxelles, à Genève, en Suisse, et à Pékin, en Chine, et dans 3 semaines, à Nairobi. Donc ça, c'est un autre élément qui a contribué à la croissance des activités de l'ICANN. Ça, c'était votre première question. La deuxième question, c'était est-ce que les réserves peuvent être utilisées pour des projets? Oui, pardon. Donc, l'ICANN a une politique de financement qui requiert que la Reserve Fund atteigne un équivalent de 12 mois de dépenses opérationnelles. 12 mois de dépenses opérationnelles, sur la base du budget que nous avons ici, ça fait à peu près 132 millions. Aujourd'hui, nous avons démarré l'année avec 86 millions et nous sommes maintenant aux alentours de 72 millions parce que nous avons utilisé une partie de ces réserves pour faire face aux dépenses de l'IANA Transition. Donc en fait, ces réserves se sont réduites et donc on a encore un gap important avec la cible, l'objectif de 12 mois qui représente en fait 132 millions. Donc on est à 72, il faudrait qu'on arrive à 132. Voilà la différence. Est-ce que cette réserve peut être utilisée pour des projets? Oui, par exception. Donc en fait, on a un exemple maintenant immédiat qui est celui de USD Transition. Nous avons utilisé les réserves pour ce projet parce qu'il n'était pas planifié. Il était très significatif en termes de coûts. Et nous ne pouvions pas couvrir les coûts de ce projet avec notre chiffre d'affaires annuel. Donc nous avons pioché dans nos réserves. Ce n'est pas quelque chose que l'on veut faire de manière permanente. Parce qu'après, on n'aura plus de réserves. Et ces réserves sont censées être notre assurance de pouvoir continuer à opérer de manière safe, secure and sustainable notre mission. Donc c'est très important pour l'ICANN d'avoir des réserves suffisantes parce que c'est la manière dont on peut permettre à l'ICANN et à l'ensemble de la communauté de continuer la mission de l'ICANN. Donc les réserves ne sont pas destinées de manière habituelle et normale à être utilisées pour des projets. Elles peuvent l'être par exception en cas d'urgence. Ce sont des réserves, on dit ça souvent, rainy days, en français on dit aussi pour bon père de famille, on veut mettre ça de côté pour avoir des réserves au cas où. Donc elles ne sont pas destinées à être utilisées pour des projets, mais si besoin est, ça peut être le cas, et elles sont là pour être utilisées en cas d'urgence ou en cas de besoin impératif. Ça aide votre... Et est-ce qu'il m'en manque une ? Oui, alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris cette question. Je vais essayer d'y répondre et puis vous allez me dire si j'ai répondu ou pas. Donc, effectivement, notre budget, c'est une estimation, c'est une projection dans le futur et c'est le résultat simplement de plans d'action pour le futur qui sont ensuite estimés en termes de coûts, de ressources d'une part et ensuite de coûts. Et donc, cette information est prévisionnelle. Toute information prévisionnelle est le sujet d'hypothèses qui sont réalisées pour pouvoir quantifier les activités et qui peuvent se révéler être fausses. Absolument. Donc, qu'est-ce que nous avons pour traiter cette problématique ? Un, nous avons ce qu'on appelle la contingency. Je l'ai montré tout à l'heure. C'est à peu près un petit peu moins de 5 millions de... dollars qui sont non alloués. Donc c'est simplement, s'il y avait des dépenses que nous n'avons pas prévues, nous avons jusqu'à 5 millions pour pouvoir les couvrir. Ça, c'est un des éléments qui nous aide. Mais ce que l'on fait d'abord, tous les jours, entre guillemets, mais en tout cas au moins une fois par mois, c'est qu'on clôture nos comptes tous les mois et on regarde comment l'activité du mois se compare par rapport à notre budget. Tous les trimestres, nous faisons un nouveau estimé. Donc, on regarde l'ensemble de l'année budgétaire dans laquelle nous nous trouvons et nous faisons un nouvel estimé de cette année. On compare cet estimé au budget. Et bien entendu, cet estimé est réalisé avec la connaissance que nous avons à ce moment-là de l'activité, du chiffre d'affaires, etc. Donc, par exemple, pour l'année fiscale 2017, qui commence en juillet, nous allons faire un estimé aux alentours du mois d'octobre-novembre, en utilisant l'activité des mois précédents comme base pour nous permettre de savoir s'il y a des différences entre ce que nous avions prévu pour le budget et ce qui se passe effectivement. Et à ce moment-là, on aura une meilleure visibilité aussi sur le reste de l'année. Et donc, nous allons refaire des projections pour le reste de l'année. Donc, c'est comme ça qu'on gère la mise à jour, je dirais, des projections et que l'on se permet de pouvoir savoir si le chiffre d'affaires est au même niveau, si les dépenses restent au même niveau. Pour information, si ça aide votre question et la réponse, hormis une année qui est l'année 2014, fiscale 2014, les dépenses de l'ICANN ont toujours été un petit peu inférieures au plan. Donc on a toujours été un petit peu, on a toujours dépensé un petit peu moins que ce qu'on pensait avoir dépensé dans le plan. Je ne sais pas si l'année qui vient sera dans cette même catégorie, mais simplement je voulais indiquer cette information pour vous. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Merci bien. Taryn, how are we doing on time?
Taryn, comment ça va au niveau du temps? Il nous reste 10 minutes.
Quel sujet que ce soit que nous avons couvert, ou sur n'importe quel autre sujet relatif aux finances de l'ICANN ou aux opérations de l'ICANN. Est-ce que nous avons des questions en ligne?
Nothing in the chat and no hands raised.
Rien dans le chat, pas de main levée non plus.
Dans la salle. Une fois, deux fois, trois fois adjugé. Merci beaucoup de votre participation. Merci de vos commentaires futurs. J'espère que vous aurez la possibilité d'aller voir notre site internet, là où se trouvent les documents, et de pouvoir regarder cette information, de pouvoir faire des commentaires, parce que cette information est là pour que nous puissions recevoir vos commentaires, et nous serons très heureux d'en avoir. Donc, merci beaucoup. Rudy, one question. Go ahead.
Allez-y, Rudy. Je voulais simplement féliciter le travail que vous faites. C'est un travail très complet aux finances. Il y avait Chuck, il y avait moi et d'autres membres de la communauté qui nous sommes retrouvés dimanche soir. Nous avons reçu tous les détails et pendant 3h30, il y a eu donc une réunion. C'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Je crois qu'il est très important de venir à ce genre de réunion. Cela nous permet de voir où sont les besoins en amélioration. C'est la communauté qui doit donc mener tout ceci. Nous sommes également très heureux de voir que l'équipe financière est capable de produire tous les détails dont on a besoin pour prendre des décisions. Donc encore une fois, merci. Merci, Rudy. Et pour être clair, en termes du feedback de la communauté, en termes de directives fournies par la communauté, qui nous indiquent ce qui est utile, ce qui nous permet d'avancer, eh bien, tout ceci est très important. Parce que on ne peut pas communiquer uniquement avec un participant, il faut deux personnes pour communiquer. La communauté est toujours présente. Nous avons vraiment besoin de vos commentaires et de votre point de vue de manière continue. Chuck, allez-y.
Chuck au micro. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ces réunions, Chuck Holmes au micro donc. Le nombre d'améliorations faites par rapport au niveau de détail est impressionnant. Ces dernières années, tout ce qui a été ajouté de la part de Xavier et de son excellente équipe, bien entendu soutenu par les membres de l'équipe financière au conseil d'administration, sont extraordinaires. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir accès à beaucoup de détails dans toutes ces informations. Et c'est la seule manière de réellement contribuer. Et ils ont fait cela en à peine 2 mois. Donc, je voulais féliciter Xavier et toute son équipe de l'excellent travail qu'ils ont fait ces dernières années. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi-même, j'ignorais qu'on avait autant d'informations disponibles. Mais c'est très important d'étudier de près et avec soin le budget. Xavier au micro. Merci, Chuck. Comme ça a été dit, il s'agit d'un élément critique du modèle multipartie prenante et pour que notre mécanisme soit redevable vis-à-vis de la communauté et puisse rendre des comptes, il est important de pouvoir s'assurer qu'on a une gestion durable des coûts. Et il est important que vous utilisiez ces informations pour prendre les décisions, pour avoir un avis sur ce qu'on devrait faire, ce que l'on fait. Et ce que l'on devrait faire. Donc, votre opinion sur notre travail et la participation de Rudy et Chuck, par exemple, qui ont participé activement à ce processus, leur connaissance et leur expérience en la matière est très utile pour notre personnel, pour qu'on puisse continuer à soutenir les besoins de la communauté en termes de planification et d'information financière. Bien entendu, c'est un chemin qui se poursuit. On n'est pas là, au bout du chemin, comme l'a dit Tarine. Voilà ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quelles sont les autres choses qu'on peut faire pour vous donner plus d'informations et des informations plus pertinentes dont la communauté a besoin? Donc, merci de cela. Merci de votre participation permanente. D'ailleurs, Rudy a parlé du groupe de travail ad hoc que l'on a créé. Si vous avez un intérêt dans la planification ou les finances de l'ICANN, sachez qu'il y a une liste de diffusion qui vous permettra d'obtenir des informations de base quant au processus budgétaire. Donc, aucune obligation par rapport à cette liste de diffusion. Si vous voulez vous inscrire, donnez-nous votre mail. Vous pouvez m'envoyer un mail à xavier.calvez@icann.org.
Et ensuite, vous êtes dans la liste et vous recevrez de manière systématique les emails. I think I mixed French and English, but everyone understands. That's good.
Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux avec l'anglais et le français, mais tout le monde a compris. Merci.
So FTE is the number of people.